le journal de l'Equipela Mondo.
Yves Kawa, chef de la milice PISIC en Ituri, acquitté dans un deuxième procès à Bunia. Le verdict est tombé hier, un jugement décevant selon l'ONG de défense des droits de l'homme, Justice Plus. Le ministre des Affaires humanitaires Jean-Claude Muyambo lance un cri d'alarme. Environ 6 millions de déplacés congolais vivent dans des conditions inhumaines, déclare-t-il. Il lance un appel de fonds humanitaires et autres bailleurs pour la recherche des solutions durables. La foire de Kinshasa opérationnelle depuis hier, la toute première édition de la Troisième République est placée sous le thème « Foire nationale des initiatives pour le développement ». À toutes et à tous, bonjour. Yves Kawa Panga Mandro a quitté. La nouvelle est tombée hier. Pour justifier son arrêt, la cour militaire de Kisangani, siégeant en chambre foraine à Bunia, s'est appuyée sur la mesure d'amnistie signée par le chef de l'État, mesure qui couvre tous les faits de guerre commis de 1996 jusqu'à 2003. La cour a aussi soulevé des vices de forme dans les jugements en première instance. Rappelons que Yves Kawapanga Mandro, l'ancien patron du groupe armé PISIC, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, était poursuivi notamment pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, détention illégale d'armes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Des détails avec vous, Jean-Paul Basila.
Ce samedi, exceptionnellement, Yves Kawa ne s'est pas présenté devant le juge de la cour pour assister au verdict de son procès en deuxième instance, entamé il y a 10 jours. Il s'est fait représenter par son conseil. Yves Kawa avait été condamné au premier degré pour crime de guerre, crime contre l'humanité, détention illégale d'armes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Ces jugements prononcés l'année dernière par les tribunaux militaires garnison de l'Ituri est annulé par la cour militaire siégeant en chambre foraine à Bunia. Colonel Pascal Moliba, son premier président, soulève des irrégularités qui, selon lui, avaient caractérisé ces dossiers au premier degré.
D'abord, concernant le mouvement insurrectionnel et le problème des armes qui permettaient à ce type-là de combattre le gouvernement, déstabiliser les institutions de la République, ces faits-là étaient amnistiés. La cour a vu que Kawa était déféré devant le premier juge d'abord, sans qu'il soit entendu sur ce fait. Or, la loi veut qu'avant que le prévenu n'atterrisse au tribunal, il faut d'abord qu'il soit entendu sur les faits libellés par le ministère public avec le procès verbal. Il puisse saisir le tribunal avec le dossier complet.
Acquitté par la cour militaire, Yves Kawa attend maintenant de faire face à la cour d'appel de Kisangani. En attendant, il continue à être détenu à Bunia dans une base militaire de la MONUC. Bunia, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
La première réaction enregistrée après l'acquittement de Yves Kawa par la cour militaire de Kisangani est celle de Justice Plus. Cette ONG de défense des droits de l'homme basée à Ituri ne cache pas sa déception face à la mesure d'amnistie sur laquelle s'appuie la Cour. Cette organisation se réserve toutefois de tout commentaire sur des irrégularités soulevées par la Cour. Maître Christian Loukoucha, membre de Justice Plus.
Nous, en tant que Justice Plus, nous sommes un peu dessus. Pour ce qui est de l'amnistie, nous n'avons toujours pas été d'accord avec la loi d'amnistie parce que nous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, nous considérons toujours la loi d'amnistie comme une loi qui consacre l'impunité. Mais si la Cour parle des irrégularités au niveau de l'instruction, à ce stade, Justice Plus n'a vraiment pas un argument ou une réaction à donner, du moins pour l'instant. Nous nous réservons les droits de suivre ou de vérifier de très près.
Propos recueillis par Jean-Paul Basila à Kinshasa, trois journalistes syndicalistes de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, sont aux arrêts depuis vendredi. Vincent Atta, Michel Chango et Rissa Sitambwe sont détenus au camp Tchatchi. Selon GED, journalistes en danger qui dénoncent cette détention, l'arrestation de ces trois journalistes est liée à leurs activités syndicales. GED affirme que l'ordre d'arrêter ces journalistes a été donné par l'administrateur délégué général de la RTNC, Emmanuel Kipolongo Mokambiloa. Donna Mbaya, président de GED, joint par Innocent Olenga.
Selon les informations que nous avons obtenues à la RTNC, ils ont été conduits hier à 20h au camp Tchatchi. Ils ont été arrêtés parce qu'ils voulaient, en tant que syndicalistes, convoquer une assemblée générale des travailleurs pour analyser une situation de crise sociale qui se déroule à la RTNC. Selon les informations que nous avons obtenues, c'est monsieur l'ADG lui-même, Kipolongo, qui aurait demandé à la garde républicaine en faction à la RTNC de pouvoir arrêter ces gens-là. Et il les accuse de chercher à créer des troubles. Moi, je ne pense pas que les activités syndicales sont des troubles. Il ne faut pas que des problèmes sociaux que les journalistes et agents de la RTNC connaissent soient noyés dans une histoire de trafic d'influence que M. Kipolongo essaie de pratiquer depuis un certain temps.
Donna Mbaya, président des GED, interrogé par Radio Kapila, DG de la RTNC, reconnaît l'arrestation de ces trois journalistes syndicalistes par les éléments de la garde républicaine, mais il dément son implication dans cette affaire et qualifie ces accusations de non fondées. Inauguration hier matin à Bandundu-Ville de la première radio communautaire dénommée Bandundu FM. Cette radio a été créée par la communauté locale avec l'appui de la MONUC et de la Fondation Hirondelle. Ces dernières ont fourni l'équipement radio complet pour son fonctionnement. Qu'est-ce que cette radio va apporter à ses auditeurs? Réponse avec Robert Lumbumato, il est le président du conseil d'administration.
La radio Bandundu FM va sensibiliser, informer, instruire la population sur des problèmes d'ordre général, principalement les problèmes de l'éducation civique et les problèmes de développement et d'auto-prise en charge par la population locale. Évidemment, il y aura des journalistes qui vont se donner, avoir des trains d'émission de diverses manières, de telle sorte que la population locale soit objectivement informée sur des problèmes de développement, sur des problèmes de pays, sur des problèmes de droits de l'homme et certainement avec les femmes, avec le problème des violences sexuelles. Tous les problèmes ayant trait à la population, élections également seront évoqués.
Les manques des réseaux téléphoniques et les signaux de Radio Kapi préoccupent les notables, les ONG et associations locales à Minembwe et à l'extrême sud de la province du Sud Kivu. Ces acteurs locaux ont présenté ses doléances à plusieurs délégations de la MONUC qui se sont rendues à Minembwe et à Kilembwe en début de semaine. Selon les autorités locales contactées sur place, les territoires des Fizi nécessiteraient plus d'attention médiatique pour favoriser son développement, la sécurité et la paix entre les communautés. Des détails avec Fiston Ngoma Mayabala qui nous appelle depuis Uvira.
Seules les cités de Fizi et de Baraka sont connectées à un réseau et captent Radio Kapi sur le gigantesque territoire de 16 000 km². La majorité du territoire ne l'est pas. À Lubonja, Lulimba, Missis et Kilembwe, à 300 km d'Uvira, le réseau téléphonique est considéré comme le meilleur moyen de lutter contre l'insécurité et de dénoncer les abus. Selon le chef des collectivités de Lulenge, secteur frontalier du Maniema et du Katanga, la guerre a eu de terribles conséquences sociales. 80% des jeunes filles ne vont pas à l'école et se marient précocement. Il a exhorté la MONUC à tout mettre en œuvre pour que Radio Kapi, considéré selon lui comme un élément indispensable à l'information et à l'éducation, puisse être capté dans l'ensemble du territoire de Fizi. La MONUC a été saisie de la même doléance à Minembwe. Selon l'autorité locale de Minembwe, la désinformation serait l'une des principales causes alimentant les conflits dans les hauts plateaux de Fizi. De leur côté, les opérateurs des réseaux indiquent qu'il faut d'abord évaluer la rentabilité avant d'installer des antennes. Concernant Radio Kapi, le porte-parole de la MONUC Uvira a précisé que la priorité reste de toucher les zones à forte concentration de la population. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Environ 6 millions de déplacés internes en RDC vivent dans des conditions inhumaines. Près de 10 000 ménages à Kinshasa et 5 000 à Lubumbashi sont sans abri. Révélation du ministre des Affaires humanitaires faite hier au cours de la présentation de l'état des lieux de la situation humanitaire en RDC. À travers des projections des images réalisées à travers le pays, le ministre Jean-Claude Muyambo a voulu présenter les conséquences humanitaires des conflits armés et des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. Au micro de René Kapita, Jean-Claude Muyambo revient sur les raisons de cette manifestation.
Nous devons connaître comment vit la population congolaise. C'est simple, on ne doit pas avoir honte. Ça c'est de un. De deux, nous devons savoir que notre population souffre. Parce que c'est tout à fait normal de dire aujourd'hui que nous venons de faire 100 jours au gouvernement. Mais ces problèmes qu'on est en train de vivre sont les problèmes que nous avons trouvés. Et nous devons trouver ensemble une solution. Le gouvernement, la communauté humanitaire, la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle j'essaie de sensibiliser pour dire que même dans la ville de Kinshasa, il y a des gens qui sont en train de vivre dans des conditions inhumaines. Ils sont dans des 1 mètre sur 1. Moi, je pense même dans d'autres pays du monde, les animaux vivent mieux qu'au Congo.
Jean-Claude Muyambo, ministre des Affaires humanitaires, sachez qu'il a lancé, toujours hier, un appel de fonds aux humanitaires et autres bailleurs afin de trouver des solutions aux problèmes des déplacés et pour construire des cités de logements pour les déplacés à Kinshasa et à Lubumbashi. Au Katanga, des entreprises minières basées à Kolwezi se disputent la propriété d'une carrière minière dans cette ville. Il s'agit des Anvil Mining et des Chemaf. Après plusieurs tractations entre ces deux entreprises et les autorités tant locales que provinciales, la conclusion est que la carrière des Mutoshi Nord, appelée Rouwemes, appartient bel et bien à l'entreprise Anvil Mining. Mais la cérémonie de remise et reprise entre les deux entreprises prévue pour vendredi matin a avorté. Raison, les représentants de l'entreprise Chemaf étaient absent au lieu de la cérémonie. Denise Maéo Moissy pour les détails.
Vendredi matin, tous les officiels de Kolwezi se sont rendus à la carrière Mutoshi Nord. Ils devaient assister à la cérémonie de remise et reprise entre les entreprises minières Chemaf et Anvil Mining. L'entreprise Anvil Mining devait reprendre la carrière de Mutoshi exploitée jusque-là par Chemaf. Le grand absent à cette cérémonie, l'entreprise Chemaf. L'administrateur adjoint au bureau de Chemaf Lubumbashi indique que son entreprise n'a pas reçu d'invitation à se présenter au site. Il précise d'ailleurs que son entreprise a perdu tous ses droits.
On a sérieusement investi sur la concession de Mutoshi. Et actuellement, nous disposons d'un stock important. Et pour évacuer ce tonnage, il faut leur accorder 3 jours, 1 semaine. Je ne sais même pas où ils ont trouvé la date du 28 juillet 2007.
Michel Santos Makelele, chargé du développement au sein de l'entreprise Anvil Mining à Kolwezi, déplore pour sa part le non-respect de tous les engagements pris par Chemaf dans ce dossier. Pourtant, selon un arrêté du ministre provincial des Mines du 21 juillet, la carrière appartient désormais à Anvil Mining qui l'a acheté. Pour l'heure, les responsables de CESCAM Kolwezi, un service de l'État et qui était chargé de faire appliquer la décision, annoncent quelques mesures.
Déjà à partir de cette date d'aujourd'hui, Chemaf n'est plus propriétaire de cette concession, c'est Anvil Mining. Avec les creuseurs, nous avons déjà parlé avec eux, ils ont déjà reconnu que c'est le site d'Anvil Mining, donc là, ils sont prêts à partir.
Pendant que les deux entreprises continuent de se disputer, les creuseurs artisanaux, eux, poursuivent l'exploitation du cuivre. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Pour être complet sur ce sujet, sachez que le parquet de Kolwezi a lancé un mandat d'arrêt à l'endroit des deux responsables de l'entreprise minière Chemaf pour sabotage au mesures ministérielles. Au Maniema, 170 000 dollars, tel est le montant loué par le gouvernement provincial pour la construction du nouveau bâtiment devant abriter les sièges de cette institution. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu vendredi devant le gouverneur de province, les membres du gouvernement ainsi que ceux du Conseil provincial de sécurité. Le gouverneur de province explique la provenance de ces fonds et la durée des travaux.
Vous savez que la province du Maniema a d'énormes difficultés. Nous avons bénéficié d'un don au niveau du gouvernement central. Nous sommes pour l'installation des nouvelles institutions. Nous sommes dit, au lieu de dépenser à tout cet argent à louer les maisons à Kindu, nous sommes dit, au lieu de louer les maisons pour l'installation du gouvernement, nous voulons construire nos propres bâtiments. Voilà comment nous avons pu utiliser cet argent qui était destiné à l'installation du gouvernement provincial. Nous avons utilisé pour construire.
Voilà, notons que ces travaux visent à réduire les dépenses pour la location des tiers par les services publics de l'État. La foire internationale de Kinshasa Fikine a ouvert officiellement ses portes hier samedi. La cérémonie s'est déroulée devant les ministres du budget, des représentants du corps diplomatique, des députés et des opérateurs économiques. Le ministre près de la présidence de la République a coupé les rubans symboliques inaugurant ainsi la première édition foraine nationale de la Troisième République. Cette édition est placée sous le thème « Foire nationale des initiatives pour le développement ». L'édition 2007 de la foire de Kinshasa qui va durer jusqu'au 1er septembre prochain connaît quelques innovations, comme l'explique Perpétue Tambo Soudila, l'administrateur délégué général de la Fikine.
Il y a d'abord les opérateurs économiques que j'invite fortement à venir s'installer très rapidement. Beaucoup sont déjà installés, mais il reste encore une petite partie qui doit s'installer afin que les activités démarrent réellement.
Quelle est la nouveauté pour cette nouvelle édition, madame?
J'ai parlé surtout de la sécurisation, de la vente des billets d'entrée. Et pour cela, nous avons dû sous-traiter avec une maison qui a les qualifications pour gérer ce genre de matière. Nous avons augmenté sensiblement les espaces destinés aux loisirs pour enfants. Ce sont des jeux que nous avions fait importer. Si vous voyez, il y a un espace là-bas qu'on appelle Star Games. Tous les jeux sont venus de la Belgique. Ce sont des jeux un peu plus modernes que nous trouvons ici. Ce n'est pas encore cela l'idéal. Nous allons y arriver. Cette année, nous avons fait un petit pas vers l'avant. Nous espérons que l'année prochaine, nous aurons vraiment le grand parc d'attractions modernes afin que nos enfants puissent connaître les plaisirs que vivent d'autres enfants dans d'autres cieux.
Perpétue Tambo Sudila, administrateur délégué général de la FIKIN, était au micro des René Kapita. Ça n'est fini pour ce journal. Merci à Donna Madimba Mbaya pour les 15 minutes que tu m'as données pour donner les nouvelles aux auditeurs.
Ouais, merci à toi, Pélé, pour toutes ces nouvelles. Okay.